Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, nous recevons Christian Combal, un journaliste, écrivain, fondateur de la chaîne YouTube Campagnol TV et auteur dernièrement de À l'endroit aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Christian Combal, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, merci à vous.
Votre dernier ouvrage, donc, comme je viens de le dire, À l'endroit, paru en octobre 2025, oppose l'endroit, le bien, la spiritualité, à l'envers, le mal, le matérialisme. Comment est née cette dualité dans votre réflexion ?
Vous avez oublié dans les vertus qu'on prête à l'endroit, la conscience, qui est au
la
fond
conscience.
Ce qui nous constitue. Et oui, ce qui nous constitue en tant qu'être humain et la dualité dont vous parlez, eh bien, c'est ce qui nous mène, ce qui nous précipite dans l'inconscience. Et au fond, c'est une certaine modernité que nous avons sous les yeux tout le temps, depuis 40 ans maintenant, ou 50 ans presque, que j'analyse des choses au quotidien. C'est mon métier. J'étais journaliste au Figaro, j'ai été romancier longtemps, et donc je suis habitué à promener une loupe sur tout ça. Et je vois une chose, c'est qu'au fond, les gens sont de plus en plus inconscients de ce qu'ils font et fonctionnent selon un schéma qui n'est pas le leur. Ils ne s'interrogent jamais en leur fort intérieur, comme on disait autrefois, pour savoir si ce qu'on leur prescrit est convenable, si c'est un bénéfice pour eux, etc. Donc nous l'avons bien vu pendant la période Covid où tout le système est devenu fou. Et il n'a cessé pendant 2 ans de nous dire « ne réfléchissez pas, faites ce qu'on vous dit
ouais. ».
C'est exactement ce qu'on nous a dit.
Bien
donc
sûr.
C'est le contraire de tous les préceptes de notre Occident intelligent, intellectuel, à notre Occident qui a lu un peu les auteurs, qui a lu Voltaire et Montaigne. On nous a prescrit pendant 2 ans le contraire de ce qui nous a toujours été prescrit dans la civilisation occidentale. Et personnellement aussi, toujours dans mes études, dans mon parcours scolaire et universitaire, dans la France de Pompidou, grossièrement, c'était encore une France qui mettait au sommet des valeurs que nous connaissons tous, c'est-à-dire le quant à soi, la réserve, la discrétion, une certaine modestie, qui pouvait ne pas aller sans orgueil intérieur. L'orgueil intérieur est tout à fait fécond. Mais ces principes de attention à l'autre, modestie, conscience de ce que l'on fait, etc., qui gouvernaient notre enfance et notre adolescence, ont été laminés dans la France de Macron. Et c'est ça le thème de mon livre, c'est que non seulement ils ont été laminés, mais maintenant, à l'exemple même d'Emmanuel Macron, il faut faire disparaître la notion du bien, pour se sentir mieux dans sa pratique du mal. Et au fond, c'est ça l'objet de mon livre, c'est de rétablir l'envers et l'endroit, le diable et le bon Dieu, qui se sont toujours appuyés l'un sur l'autre, en quelque sorte, et sortir de cette spirale invraisemblable du bain d'eau tiède, où on ne sait pas ce qui est bien et mal, ce qui est homme et femme, c'est effrayant. Et donc voilà l'objet de mon petit livre, c'est ça, c'est cette indifférenciation obligatoire qu'on nous inflige, le métissage mental, en quelque sorte.
Et le livre est structuré comme un dialogue aussi avec le personnage de Léon, qui semble doté d'une sensibilité mystique. Léon est-il inspiré d'une figure réelle ou est-ce une allégorie pour explorer des thèmes prophétiques ?
Ben, c'est les deux. C'est les deux exactement. C'est moitié-moitié. C'est-à-dire que j'ai passé longtemps à titre privé et à titre professionnel en Italie, notamment autour de Rome, et j'avais là pour ami un vieux prêtre à moitié d'origine française qui passait un peu pour un Padre Pio local, un Padre Pio moins célèbre, en tout cas qui imposait les mains et qui s'était fait un peu gronder par l'évêque, qui était quand même son copain, qui lui a dit « tu guéris pas en imposant les mains au couvent, s'il te plaît, tu fais ça ailleurs ». Et donc, une paroissienne lui avait loué une chambre en ville, dans cette petite ville qui était pas loin de Subiaco, le monastère des Dominicains, et il guérissait là, il faisait donc le moine guérisseur, c'était un bénédictin. Et donc, je me suis assez lié à ce type qui en plus parlait le français comme père et mère, et qui était assez âgé. et qui voyait toutes sortes de choses. Quand il était enfant, il voyait les morts. Quand je le connaissais, il voyait un peu l'avenir. Il me disait, par exemple, que Sarkozy était un personnage détestable. C'est assez amusant. Et puis donc, il m'a inspiré ce personnage de Léon qui devine les choses plus qu'il ne les voit. Et qui, en gros, il dit, Léon, que les voyants ont pour principal exercice de songer, enfin de définir ce qui n'adviendra pas et sont beaucoup moins capables de dire ce qui adviendra.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc, c'est ce que faisait mon vieux prêtre italien quand je lui disais, est-ce qu'on va vers là? Il disait, non, on ne va pas vers là. Je ne sais pas où on va, mais on ne va pas vers là. Voilà.
Et vous critiquez vivement la modernité hein, en dénonçant le transhumanisme, les élites manipulatrices et les technologies comme l'IA. Hein. En quoi ces éléments...
C'est simple. Non, je ne dénonce pas la modernité en elle-même. L'IA, d'abord, je vous parle en ce moment, j'ai un écran de 65 pouces sous les yeux. Je travaille beaucoup sur l'IA graphique et cinématographique, que je trouve une invention assez admirable, assez curieuse. C'est un nouvel art qui est en train de naître sous nos yeux. En gros, avec l'IA, on peut désormais faire un film de François Truffaut, enfin l'équivalent en profondeur. On peut faire un film sans quitter son bureau, au clavier, simplement parce qu'on imagine. Donc en gros, le travail de romancier se double désormais d'un travail de cinéaste à volonté.
En fait, ce que je voulais vous dire, excusez-moi de vous couper, c'est que en quoi ces éléments, hein, plus précisément, représentent-ils, selon vous, une subversion de l'endroit ?
Alors justement, l'endroit devient subverti parce qu'on se mêle de demander à l'IA autre chose que des belles images. On lui demande, au fond, le graal de la vérité. On lui demande de trouver des solutions. L'IA n'est pas faite pour trouver... Si, elle est faite pour trouver des solutions à un problème de maths très précis, ça oui. Ça, c'est mécanique. Mais au fond, tout le monde se comporte comme si l'IA devait contracter un jugement tôt ou tard. Mmh. Et évidemment, elle en est incapable. Elle en est incapable. L'IA est une encyclopédie formidable. L'IA est capable de me dire comment réparer ma moto Honda de 1994, parce qu'elle connaît toutes les pièces. Mais l'IA est incapable de me dire ce que je dois faire dans la vie.
C'est ça.
Or, au fond... Là où on voit l'énorme danger, le danger diabolique de cet outil, c'est qu'il est évident que les sites internet, par exemple, de voyance et de d'astrologie, etc., vont avoir trop fait de vous proposer des consultations par IA qui seront des consultations divinatoires. Auquel vous allez vous fier si vous êtes quelqu'un d'un peu crédule, et elle aura une habileté redoutable pour vous prédire des choses qui vous ressemblent. Parce que l'IA, il suffit de lui donner un questionnaire de 3 pages avec des questions A, B, C, D sur la personne qui consulte, et l'IA va comprendre tout de suite qui vous êtes. Et à ce moment-là, elle va vous proposer des solutions en fonction de qui vous êtes. Des solutions qui seront des leurs. Donc, en gros, ce sera les Madame Irma de fête foraine au centuple et avec un pourcentage de mensonges et d'illusions considérables. Or, si les gouvernements font la même chose, vous imaginez un peu la catastrophe. Et donc, voilà, l'IA est capable d'induire des élections sans même les truquer, puisqu'elle est capable d'induire l'opinion.
Et des références... ésotérique traverse le livre, hein, comme le Graal ou Rennes le Château. Pensez-vous que ces symboles puissent aider à remettre le monde à l'endroit dans une société en perte de repères spirituels ?
Alors justement, c'est la méthode un peu métaphorique que j'ai choisie parce que je suis avant tout au départ un romancier. J'ai écrit un roman il y a 2 ans qui s'appelait Rebarbe à Campagnol, qui racontait les années Macron vues d'un village français avec tout un recours à l'imaginaire, disons, ésotérique, justement. Mm-hmm. Mais ce qu'il faut voir, c'est moins l'ésotérisme que le retour du spirituel. L'ésotérisme est une façon, pour moi, de raccrocher l'attention du lecteur à ce que je veux dire. Et ce que je veux dire, c'est qu'il est indispensable que la société redevienne spirituelle et s'aperçoive que dans ce que nous avons vécu depuis 2500 ou 4000 ans, il y a une grosse moitié de choses irraisonnables, de choses qui ne sont pas quantifiables par un ordinateur. C'est bien ce que je disais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'IA essaye de se mêler de ce qui est sensible, elle devient un danger terrible puisqu'elle mécanise les hommes. Alors que, en fait, tout le message chrétien, par exemple, c'est le contraire de la mécanicité des hommes. Chacun est une machine unique et pas remplaçable comme un robot. Un robot, il est cassé, vous le remplacez par un autre. Il n'a pas de personnalité. Et les hommes ont une personnalité que la société actuelle voudrait voir disparaître. C'est pour ça qu'elle essaye de les changer de place, par exemple. On appelle ça des mobilités. La société d'aujourd'hui appelle ça mobilité parce que ça veut dire que vous êtes comme un pion sur le jeu d'échecs. Quelle que soit la case noire ou blanche, vous êtes partout chez vous.
Bah, c'est totalement ça.
Voilà. Et donc, le problème, c'est que je préférais que chacun devienne le roi ou la reine du jeu d'échecs et qu'on comprenne que l'individu est roi. Voilà, c'est ça. L'individu est roi. Il n'est pas roi au sens de l'enfant roi qui embête tout le monde. Il est roi au sens où le moindre clochard dans la rue n'est pas né pour le devenir. Évidemment, non. Et par conséquent, quand on en croise un, on se dit, je l'imagine à l'âge de 4 mois et demi. Eh bien, à l'âge de 4 mois et demi, il m'émeut vu ce qu'il est devenu. Et il m'émeut parce qu'à l'âge de 4 mois et demi, il était riche de tout ce qu'il allait pouvoir devenir et qu'il n'est pas devenu. Et c'est pour ça que l'esprit chrétien est au fond, enfin chrétien, je le dis au sens large,
Large,
l'esprit confucianiste en Asie, même l'esprit donc protestant ou orthodoxe, c'est un esprit qui rend la nature acceptable, qui rend la nature voilà tolérable pour l'esprit, c'est-à-dire que il est normal que tout le monde n'ait pas le même statut dans la société et
ouais.
qu'il y ait des riches et des pauvres, qu'il y ait des QI de 180 et des QI de 30, mais il est inadmissible que les QI de 180 accaparent tout, ce qui est en train de se produire.
Cher Christian Combaz, juste une petite pause, un petit message pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 Boulevard Murat 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Christian Combaz, vous évoquez une lutte cosmique entre bien et mal avec des allusions à des conspirations contemporaines, hein, vaccination de masse, censure. Et des expériences de mort imminente. Comment reliez-vous ces phénomènes à l'actualité de 2026?
Écoutez, je crois que nous sommes dans une période assez charnière, il n'y a aucun doute, où le jeu de cartes est redistribué en fonction de la vérité, qui sont des intérêts purement immédiats et matériels. Et au gros, je n'ai pas de passion pour Donald Trump. La seule chose qu'il fasse, c'est restaurer le niveau de relation entre les hommes à ce qu'il a toujours été. En gros, moi, ce que je trouve extrêmement délicat, et c'est pour ça qu'on parlait du diable, c'est que, au fond, ces gens-là qui nous gouvernent, notamment en Europe, nous écrasent en nous disant qu'ils nous font du bien. L'avantage de Trump, c'est qu'il nous écrase en disant que non, il n'est pas là pour faire du bien.
C'est ça.
C'est donc au moins les choses sont claires. Le diable a
Ah bah
retrouvé, enfin le
oui,
diable, en tout cas
ça a le mérite
le
d'être
principe
clair.
terrestre, voilà, le principe terrestre a retrouvé son manteau, qui est un manteau d'oppression et plus exactement de brutalité, moi-je. Et bien moi, je préfère ça. Je préfère avoir eu un père qui me disait monte dans ta chambre, qui me donnait des claques de temps en temps, mais je savais qui c'était. Le
Ça.
problème de la paternité au sens européen d'aujourd'hui, et d'ailleurs comme souvent dans les familles modernes, c'est que le père, notamment, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est parce qu'il n'est pas du même avis d'une phrase à l'autre. On ne sait pas qui c'est parce qu'il est absent du jour au lendemain. On ne sait pas qui c'est parce qu'il n'a pas de conviction dans la vie. Il n'a pas de conviction. L'Europe n'a pas de conviction. Elle est, comme disait Guy Bedos, elle est du côté où on la pose. Donc le problème, en fait, c'est qu'il est temps de revenir à des gens qui ont des convictions, une parole qui incite les autres à aller quelque part. Au fond, quand vous regardez ce que fait l'Europe vis-à-vis des réseaux sociaux et des gens qui s'expriment comme moi, c'est-à-dire avec une certaine vitupérance, avec un côté un peu imprécateur, l'Europe est obsédée par les réseaux sociaux où des gens parlent comme moi parce qu'elle est obsédée par les gens qui parlent comme moi. C'est la négation de leur discours robinet d'eau tiède. En gros, le discours robinet d'eau tiède est celui qui leur permet de rester au pouvoir le plus longtemps possible. En gros, un grand ponte européen comme Thierry Breton, que j'ai un peu fréquenté parce que j'ai failli écrire l'un de ses livres chez Robert Laffont, Thierry Breton, c'est le genre « vous exagérez, il n'y a pas de problème ». Les élites qui nous gouvernent, c'est toujours ça. J'ai pas mal d'amis énarques et conseillers à la Cour des comptes, etc., avec lesquels je ne discute même plus, puisqu'ils me considèrent comme un analyste radical de la situation. En gros, pour eux, tout est beaucoup plus simple que ça. Il n'y a pas de problème. Les choses vont leur rythme. Et finalement, on reviendra de tout. Non, je suis désolé. Dans l'histoire humaine, il y a eu des moments où on a été obligé de décider où était le bien et où était le mal. C'est un moment comme celui-là que nous vivons en ce moment, il n'y a aucun doute. D'ailleurs, les sommes payées au robinet d'eau tiède pour qu'ils continuent à envoyer de l'eau tiède, sont elles-mêmes un aveu. Quand vous voyez les salaires de 470 000 euros pour une directrice de Radio France, vous avez bien compris qu'elle remplit une mission qui est une autre mission que celle de diffuser des programmes. Elle est évidemment un vecteur idéologique, elle est payée très cher pour ça, parce que c'est un agent de l'Empire.
À l'endroit, donc... semble porter un message d'espoir prophétique avec l'idée d'un grand roi à venir. pouvez-vous nous en dire plus sur cette figure et son rôle potentiel dans l'avenir de la France?
Là encore, il faut rétablir mentalement le versant métaphorique de ce que je dis. Je sais que le grand roi, vous savez que le grand roi est une prophétie assez courante, donc je m'en sers un peu, même beaucoup, pour montrer que c'est pas seulement la personne physique d'un grand roi, on va me dire, mais d'où le tirez-vous, ou est-ce qu'il sera un descendant des Bourbons, etc. Je veux même pas me poser la question. Moi, ce qui m'intéresse dans ce principe du grand roi, c'est que c'est l'irruption d'un principe étranger et opposé à ce que nous venons de vivre. C'est le grand roi, c'est le contraire de Giscard d'Estaing.
Vous
voyez ce que je veux dire?
C'est
des gens qui n'ont aucun. Regardez le Padre Pio. Le Padre Pio, c'est à peine s'il se rasait. Il était presque sale. On voyait bien que la spiritualité était le principal de sa vie. Eh bien, je pense que dans les gouvernants futurs, on aura des Saint-Louis. On aura des Saint-Louis, c'est pas forcément des rois, mais en tout cas des personnages habités tellement par leurs tâches qu'ils dormiront sur un lit de camp. On peut pas dire que ce soit le cas d'Emmanuel Macron. Il ne dort pas sur un lit de camp. Et aucun de ses ministres. Donc, en gros, le gouvernement, la charge d'âme que ça suppose, tout ça devrait inspirer une sorte de sainteté à ceux qui exercent le pouvoir. Et c'est ça que je veux dire lorsque j'évoque la figure du grand roi, c'est le retour d'une sorte de politique de la sainteté personnelle. Sainteté, je ne parle pas de qui couche avec qui, ça ne m'intéresse pas. Sainteté, c'est pas... Sainteté, par exemple, c'est l'absence de convoitise personnelle. Convoitise au sens large. On nous dit, par exemple, pour essayer de montrer que Poutine, ce qui n'est pas le cas, est du côté de la cupidité moderne, comme nous, on essaie de nous dire qu'il est milliardaire, il a des voitures partout, etc. Sauf qu'on ne les voit jamais. Il n'est pas couvert de femmes, il n'a pas de voiture et de villa importante. Sans ça, les services secrets se sont évidemment fait un point d'honneur de nous montrer des photos, des villas avec 14 piscines, etc. On ne les voit pas. Donc, en gros, l'Occident est au fond désespéré de ce que Vladimir Poutine ne soit pas Britney Spears. Il n'a pas les mêmes aspirations. C'est bizarre, hein. Alors que je vous rappelle qu'il est gouverné par des gens qui n'ont que ce genre d'aspirations. Voilà. Vous avez vu la villa, la presqu'île monstrueuse de Obama et sa femme. Les villas de Zelensky, la corruption qui règne même au sommet de l'État français, le fait, par exemple, le fait que la femme du premier personnage de l'État passe son temps à faire les boutiques de luxe avec une nuée de photographes derrière elle, c'est un scandale absolu quand on pense à Yvonne de Gaulle.
Ah oui, c'est... Oui.
Alors, le problème, c'est qu'Yvonne de Gaulle, peut-être, n'avait pas besoin de prouver sa féminité.
Ça, c'est un autre sujet.
Bref.
Comme il nous reste 5 minutes, cher Christian Gombaz, la France traverse des débats intenses sur l'identité et la souveraineté. Comment votre critique de la modernité à l'endroit s'applique-t-elle à la situation politique actuelle avec les tensions autour de l'UE et des alliances internationales?
Bah écoutez, l'UE a pour objet, littéralement, de détruire, ça a été avoué de manière explicite, par exemple, par Michel Barnier, a pour objet de détruire le sentiment national de chacun des États membres.
Mmh.
Michel Barnier a dit qu'il a fait serment de ne pas servir les intérêts de la nation française.
Oui.
Donc, en gros, voilà, il nous a défini l'objet de cette machine, de cette usine à gaz, et nous, donc, ça nous aide à définir notre objet quand on dit qu'il faut qu'elle périsse.
Oui,
alors, on va dire, ouais, mais l'Europe, en fait, la vraie Europe, c'est celle dont je parle depuis toujours, j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet, c'est l'Europe des statues dénudées sous les balcons, c'est l'Europe des tableaux d'église, c'est l'Europe de Poussin, de Montaigne, de Goethe. Cette Europe-là a toujours existé, enfin pas toujours, mais elle existe depuis les Mérovingiens, et elle existera bien après la chute de la communauté européenne du charbon et de l'acier. L'Europe que nous avons bâtie après la guerre était une Europe purement économique et purement productiviste qui n'a aucune raison d'être sur le plan culturel. Aucune. Et heureusement pour nous, les pays de l'Est ont fonctionné comme un conservatoire pendant très longtemps à la chute du mur de Berlin. Là, moi, j'ai fait partie de ceux qui allaient s'installer là-bas pour voir combien ils avaient gardé de nos valeurs anciennes. Ils les avaient toutes gardées. J'ai même écrit un livre ou deux sur le sujet. Et j'ai alerté en disant, attention, ne vendez pas votre âme aux Américains parce que vous devrez la racheter extrêmement cher. C'est exactement ce que fait la Hongrie, par exemple. Et ce que va faire la Pologne. Ces gens se sont vendus à l'Amérique en 15 jours. Ça fait 15 ans qu'ils le regrettent. Et au fond, nous avons le même problème, sauf que les Polonais ont réglé ce problème par leur passivité liée à l'ancien monde. C'est-à-dire que quand vous allez faire un Noël polonais dans une église près de Cracovie, vous rendez compte que tous les enfants savent chanter des cantiques, jouent au violon, au piano ou à la guitare. C'est invraisemblable. Ce sont des nations, ça, qui sont restées extraordinairement cultivées dans tous les sens du terme, en plus, parce que sur le plan scientifique, c'est pas des nuls, et puis ils ont une très bonne industrie. Mais qu'il s'agisse des Hongrois, etc., ils réalisent, ils nous répètent, ils conservent ce principe européen de l'équilibre entre la capacité mentale du grand architecte ou du grand ingénieur et la capacité mentale du poète, de Victor Hugo et des grands peintres. Je vous rappelle l'apogée, selon moi, de la culture européenne, celui auprès duquel nous devrions recoudre la continuité, si vous voulez, c'est l'Europe de Bouguereau, de la Tour Eiffel, la fin du Second Empire, le capitalisme social qui faisait des phalanstères un peu partout. Donc ceux-là étaient dans le vrai, ils étaient dans le vrai, ils allaient vers un monde futur qui pouvait être radieux et qui a été laminé, notamment par les Américains, notamment. Parce que le système américain a donné, au lieu de notre Europe qui était profondément hiérarchique et soucieuse de maintenir la hiérarchie, les Américains ont dit « la hiérarchie, c'est une offense au monde américain, puisque nous n'en sommes pas issus, par conséquent, on la détruit ». Et c'est exactement, pour répondre à votre question, ce que fait l'Union européenne, elle détruit les vieilles hiérarchies pour essayer de fabriquer un monde où tout le monde est égal, mais pas seulement égal, identique. Enfin, nous ne voulons pas être identiques à notre voisin.
Malheureusement, il nous reste 2 minutes, et pour conclure, quel message adressez-vous à nos auditeurs qui cherchent à remettre leur vie à l'endroit face aux défis de notre époque ?
Qui cherchent déjà à rendre chacun de leurs enfants et petits-enfants uniques. C'est-à-dire que dès qu'ils les entendent parler comme a parlé la télévision, ou comme a parlé le petit voisin, ou même parfois comme a parlé le petit Ahmed dans la cour de l'école, parce que je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'enfants des beaux quartiers qui adoptent le langage, enfin pas le langage, mais l'accent des banlieues par pur mimétisme. Donc c'est contre ce genre de mimétisme, ça c'est une anecdote, mais il y a des mimétismes mentaux aussi. Ben c'est ça qu'il faut extirper de la cervelle des gosses avant l'âge de 10 ans, parce qu'après c'est foutu. Et donc, si vous élevez vos enfants, offrez-leur des choses inhabituelles, donnez-leur à lire des livres qu'on ne recommande pas, donc écartez Daniel Pénac, vous voyez ce que je veux dire, ce genre de choses, quoi. Tout ce qui n'est pas recommandé et devrait être priorisé. Voilà.
Et je vous rappelle quand même que vous êtes actif, hein, très actif sur X, et je rappelle aussi votre chaîne YouTube Campagnol TV. Rapidement, avez-vous observé une évolution de la censure ou des débats en ligne depuis la sortie de votre livre ? Je suis désolé, il reste une minute.
Non, pas beaucoup, ça s'accentue. La chose, c'est qu'ils sont très embêtés par les gens comme moi. Je vais vous donner un exemple, là, ça comblera votre minute. Moi, quand je fais une pancarte, quand je fais une illustration avec une pancarte où les manifestants disent « psychopathe et poilopathe dehors
uh-huh. »,
vous voyez ce que je veux dire ?
Oui,
je ne suis pas censurable. Je ne suis pas, on ne peut pas m'envoyer à la 17e chambre pour avoir écrit ça.
Bien sûr.
Et donc, c'est ça qu'ils redoutent. Au fond, ils préfèrent les gens bien premier degré. Or, heureusement, sur Internet, il y a tout un pan, tout un versant qui est du deuxième degré.
Oui, heureusement.
Et dont ils n'auront jamais la peau. Jamais.
Eh bien, écoutez, Christian Combaz, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau.
Merci, monsieur.
Ce sera le mot de la fin. Je rappelle donc que vous êtes journaliste, écrivain, fondateur de la chaîne YouTube Campagnol TV et auteur dernièrement de « À l'endroit hein, » aux éditions Jean-Cyril Godefroy.
Donc, assistez auprès de votre libraire pour l'obtenir, parce que c'est parfois un peu difficile.
Eh oui, ça c'est de plus en plus courant, malheureusement. Encore merci d'avoir accepté mon invitation, cher Christian Combaz, et à très bientôt.
Merci.
Et chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. À mercredi prochain et bonne semaine.